Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture, comme chaque matin. Aujourd'hui par exemple, on va parler séries, on va parler musique. Ce sera en deuxième heure aux alentours de 10h30. Avant cela, vous entendrez Bruno Donnet pour ses télescopages, Marc-Antoine Lebret ses stories en toute fin d'émission, et d'abord dans quelques instants, le journal des médias et les eaux d'audience télé d'hier soir avec Louise Bernard. Notre info média avec une enquête qui fait du bruit sur les réseaux sociaux, elle concerne des arnaques aux produits financiers commises par des ex-candidats de la télé-réalité, aujourd'hui devenus influenceurs sur Instagram, millionnaires à Dubaï parfois. Les victimes, elles, se sont organisées en collectif. L'État tente de légiférer. Et la journaliste de 20 minutes, Lina Fourneau, a enquêté sur ces pratiques. Elle sera dans ce studio. Nos invités ensuite, Evelyne Thomas, oui, la mythique présentatrice de C'est mon choix. On parle de sa nouvelle émission consacrée aux femmes tueuses. Ça s'appelle Snapped. C'est ce soir sur Chérie 25. Et puis Marina Foïs, oui, la mythique Sophie Pétoncule des Robins des Bois pour le film En roue libre, premier film singulier mais également très réussi de Didier Barcello. C'est un huis clos mais en mouvement, vous allez comprendre et adorer. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
La grève de l'audiovisuel public, BFM qui lance une nouvelle chaîne locale, encore une. Combini retire les vidéos d'un youtubeur de son site, Netflix continue de licencier et Top Gun, le film de tous les records.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
Ils ont regardé Camping Paradis, hein, qui marche toujours aussi bien sur TF1. 4 100 000 téléspectateurs hier soir, 21,9% de part d'audience. Plus fort que la semaine dernière. Non, équivalent à la semaine dernière. En part d'audience, c'est un petit peu au-dessus, allez quand même. Deuxième, M6 avec Marié au premier regard. Que sont-ils devenus ? Marié au premier regard qui monte encore. Hein, 2 520 000 téléspectateurs hier soir sur M6. 13,8% de part d'audience, c'est un bon niveau de part d'audience. Et surtout sur la cible commerciale dont je vous parle souvent. Ouais. Les FRDA de moins de 50 ans, cible privilégiée pour M6 et TF1, oui, mais pour M6, 31,4% hier soir. Wow. Ça cartonne moins du côté de France 2, qui est troisième avec la série The Tourist, qui a perdu 1 million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Hein. Ce qui fait que la série a été regardée hier soir par 1 790 000 téléspectateurs, 9,5% de part d'audience.
Europe 1 Culture Média.
L'audiovisuel public est en grève aujourd'hui.
Les salariés de France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA protestent contre la suppression de la redevance. Ils répondent à un appel à la grève de plusieurs syndicats et une manifestation est prévue à Paris ce midi. Ce qui les inquiète, c'est la possibilité que la redevance soit supprimée pour devenir une ligne de budget de l'État, dans le budget de l'État, ce qui fragiliserait, selon eux, le financement du service public qui dépendrait alors de l'humeur des dirigeants. L'indépendance de ces groupes serait alors, elle aussi, fragilisée. Selon le journal Le Monde, pour calmer ses inquiétudes, le gouvernement envisage de faire inscrire les budgets de l'audiovisuel public dans une loi, la loi de programmation des finances publiques qui doit être votée cet automne, ce qui permettrait de donner une forme de garantie sur les sommes qui seraient allouées. Il reste un autre point de crispation, une possible fusion entre les différents groupes audiovisuels publics, c'est ce que propose un rapport du Sénat dont je vous avais parlé, avec comme conséquence probable des réductions économiques drastiques.
BFM TV lance aujourd'hui une nouvelle chaîne locale.
BFM Alsace, elle sera officiellement lancée tout à l'heure à 17h. Il s'agit de la 9e locale de BFM Région. Alors comme les autres, la ligne éditoriale consiste à faire du local, forcément, de la proximité, avec plusieurs émissions chaque jour. Une matinale baptisée Bonjour l'Alsace, une émission en fin d'après-midi Bonsoir l'Alsace, c'est logique. Et puis deux rendez-vous hebdomadaires, un sur le sport chaque lundi à 19h sur l'actualité du Racing Club de Strasbourg-Alsace, et puis un autre sur la politique, sur l'actu politique locale, donc chaque jeudi à partir de septembre. Et puis chaque soir, la chaîne s'intéressera à une thématique différente. Le lundi, c'est environnement, mardi, business, mercredi, l'emploi, jeudi, l'Europe, et vendredi, les sorties. Pour y accéder, si vous nous écoutez depuis l'Est de la France, c'est sur le canal 30 de la TNT régionale, sur les box ou via l'application mobile. Prochaine locale lancée, ce sera cet automne et ce sera BFM Normandie.
Combini retire les vidéos du youtubeur Dirty Biology de son site.
Oui, car Léo Grasset, de son vrai nom, est accusé de violences sexuelles et psychologiques par 8 femmes. Mediapart a publié une longue enquête sur le sujet la semaine dernière, avec plusieurs témoignages, des accusations que le vidéaste conteste. Ce youtubeur cumule près d'1,5 million d'abonnés sur sa chaîne. Il a aussi participé à plusieurs vidéos pour Combini ces dernières années, vidéos que le site a donc décidé de déprogrammer pour témoigner, je cite, son soutien aux victimes de violences sexuelles et sexistes.
Dans l'actualité des médias également, un journaliste mis en examen pour divulgation de secrets défense.
Alex Jordanov est l'auteur d'un livre sur la DGSI, les services de renseignement français. Une enquête sortie en 2019 qui lui a valu 48 heures de garde à vue la semaine dernière avant d'être présenté à une juge d'instruction et mis en examen pour plusieurs motifs, dont divulgation de secrets défense. C'est une information de l'agence France Presse. Il lui est reproché d'avoir dévoilé trop de détails sur le fonctionnement de la DGSI. Des policiers de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ont d'ailleurs été également présentés à une juge d'instruction en vue de leur mise en examen, car ils sont accusés d'avoir fourni des informations confidentielles aux journalistes. Alex Jordanov, qui avait pourtant fait relire son livre par des spécialistes du renseignement, d'après l'AFP, pour ne pas porter atteinte au travail en cours des services, selon l'éditeur du livre. L'association de la presse judiciaire a, elle, dénoncé une mesure d'intimidation inacceptable et une énième violation de la loi sur la protection du secret des sources de 2010.
Netflix continue de licencier des employés.
300 personnes viennent d'être remerciées par la plateforme. Elle s'ajoute aux 150 licenciés en mai. C'est un moyen pour le géant du numérique de streaming de faire des économies dans un moment compliqué. Il faut dire que la semaine dernière, à la bourse, le prix d'une action Netflix s'élevait à $180 contre plus de 600 en janvier. Grosse chute, mais oui, c'est la conséquence directe de la perte d'abonnés au premier trimestre. Une première dans l'histoire de la plateforme. Je vous en ai déjà régulièrement parlé ici. Et en plus des licenciements, la plateforme a également abandonné plusieurs projets ces dernières semaines.
Top Gun Maverick devient le plus gros succès commercial de l'année dans le monde.
Il vient de dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office. Chiffre à couper le souffle, comme le dit la chanson. Take My Breath Away, vous l'avez ?
Ah non, je ne l'avais pas maintenant. Merci.
Voilà, petite traduction. Ouais. Dans le détail, 552 millions de dollars sur le marché nord-américain et 484 dans le reste du monde. En France, il a rapporté 36 millions d'euros à la Paramount grâce aux plus de 4 millions de spectateurs. C'est une barre qui a été franchie ce week-end, ce qui en fait le plus gros succès de l'année au cinéma dans l'Hexagone. Et puis au niveau mondial, c'est le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise. Et les chiffres vont continuer de s'envoler puisque le film est toujours en salle. En France, la fête du cinéma va sans doute booster encore davantage le nombre d'entrées. Et puis le Figaro rapporte que le film bénéficie en plus d'un ce qu'on appelle un effet repeat business. C'est quand certains spectateurs, des fans d'une franchise, vont voir le film plusieurs fois au cinéma. Le journal cite les chiffres de la Paramount. Aux États-Unis, 16% des spectateurs sont allés voir Top Gun Maverick plus d'une fois et 4% plus de 3 fois. Un film dont Europe 1 est partenaire, je vous le rappelle.
On le sait. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite, on l'a dit souvent ici, on en est absolument ravis. C'est sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour. Quand des ex-stars de la télé-réalité arnaquent leurs jeunes abonnés sur Instagram avec des produits financiers plus ou moins douteux, c'est l'enquête du journal 20 minutes qui fait beaucoup de bruit. Nous en parlons avec son autrice, Lina Fourneau. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Arnaque aux produits financiers. C'est une enquête du quotidien 20 minutes qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et pas seulement depuis une semaine. Son titre en entier, le voici. Arnaque aux produits financiers sur Instagram. Des candidats de télé-réalité jouent avec l'argent de leurs jeunes abonnés. Ces célébrités 2.0 sont fait connaître d'abord grâce à des émissions, les Marseillais, les Anges ou les Princes et les Princesses de l'Amour. Et puis, ils ont su faire fructifier leur notoriété sur certains réseaux sociaux comme Instagram, réseaux où ils partagent leur vie en ligne, relations amoureuses, famille, shopping, villa, grosse bagnole, mais également contenu sponsorisé. On les appelle influenceurs car ils ont de l'influence. Ils en ont sur leurs millions de jeunes fans. Certains d'entre eux les poussent même à s'inscrire et à investir de l'argent dans d'obscures plateformes financières qui leur promettent en retour un joli pactole. Le pactole n'est jamais arrivé. Et depuis, les victimes se sont organisées pour se faire entendre sur les réseaux sociaux, évidemment. Bonjour Lina Fourneau.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste à la rédaction du journal 20 minutes. C'est vous qui avez signé cette enquête. C'est votre première radio, m'avez-vous dit ?
C'est ma première radio, effectivement.
Bienvenue à la radio, bienvenue dans Culture Média. Est-ce que vous-même, vous êtes consommatrice de télé-réalité ?
Non, je l'ai été, bien sûr, à l'époque de Secret Story, mais après j'ai arrêté, j'ai réalisé qu'il y avait... Bon, j'avais plus assez de temps.
Alors, comment vous avez entendu parler de ces cas d'arnaque autour des influenceurs issus justement des téléréalités ?
J'avais lu un tweet très intéressant de la chercheuse Valérie Robert qui en fait est spécialisée dans le sexisme dans la téléréalité. En gros, elle disait que les activités commerciales sur les réseaux sociaux des candidats de téléréalité étaient souvent très genrées. Les femmes s'intéressaient aux produits esthétiques, au maquillage, et puis les hommes, aux paris sportifs et au trading. Le dernier m'a fait tiquer.
Pourquoi ?
Bah, parce que je me suis dit que le public des candidats de télé-réalité était quand même très jeune. Enfin, moi, j'ai regardé la télé-réalité quand j'avais 15 ans.
Et très, très loin du trading.
Et ouais, très, très loin du trading. Même beaucoup de gens, beaucoup plus vieux, ne comprennent pas forcément le trading.
Moi non plus, je ne comprends pas tout dans le trading. Alors, quand on parle d'influenceurs issus de la télé-réalité, on pense forcément à la plus célèbre d'entre elles, Nabila et son shampoing. Nabila a dû payer, non pas à cause de cette réplique sur le shampoing, mais l'été dernier, une amende de 20 000 euros pour pratique commerciale trompeuse sur Snapchat. Que lui était-il reproché ?
Il lui était reproché donc d'avoir fait la promotion sans avertir ses auditeurs qu'en gros elle était payée par la plateforme et ce n'était pas mentionné. Et même elle a réagi à la fin en disant « oui, j'accepte de payer le chèque » et en plus « oui, il faudrait une restriction bien plus sévère pour les influenceurs ».
Le ministre de l'économie s'était même fendu d'un tweet à l'époque, c'était Bruno Le Maire. On était le 21 juillet 2021, voici ce qu'il écrivait l'été dernier, donc c'était le 21 juillet dernier. Bruno Le Maire écrit « les influenceurs doivent informer leur communauté quand ils sont rémunérés pour faire la promotion de leurs produits. Luttons ensemble contre les publicités déguisées ». Il faut dire que les politiques essaient de légiférer sur ces arnaques en ligne, notamment la loi dite « loi Sapin 2 ». Que dit cette loi ?
La loi Sapin 2, elle remonte à 2016. La loi Sapin 2, elle a pour but en fait, de renforcer la transparence et de lutter contre la corruption et le trafic d'influence. Nous, ce qui nous intéresse dans cet article, c'est l'article 72, qui en gros dit on n'a pas le droit de faire de la promotion sur des activités financières, sur des activités financières en ligne auprès d'un public non professionnel, c'est-à-dire le public des candidats de télé-réalité.
Alors, on va parler de votre enquête, les arnaques que vous avez décelées qui concernent cette pratique en ligne, le trading. Moi, je n'ai pas bien compris ce que c'est. Je suis ravi que vous soyez là pour m'éclairer en quoi consiste le trading.
Je vais vous l'expliquer de manière très simple parce que pour moi aussi, ça reste assez flou. Le trading, c'est l'achat et la vente d'actifs financiers. Le but, c'est de faire du bénéfice sur cette activité. Mais forcément, c'est une activité à risque. Surtout ce que propose... parce qu'en fait, il y a plusieurs formes de trading. Par exemple, l'activité que propose Marc Blatta, ça va être de faire du copy trading. Donc en fait, un trader plus expérimenté que nous va faire une opération. On va le suivre. Et comme il le dit, on copie, colle et on injecte.
Voilà, c'est comme si on jouait au tiercé avec les pronostics de quelqu'un d'autre, c'est bien ça. Meilleur que soi, sans rien y connaître. Dans les chevaux, Capital écrit ceci, c'est en décembre, acheter une action, définition du trading, acheter une action, un indice ou une devise avec l'objectif de revendre le titre à meilleur prix dans l'heure, le jour ou la semaine. Voici en quoi consiste le trading. Autant dire que ce type d'activité est à haut risque et ne convient pas à tous les profils d'épargnants. Fin de citation. Le premier influenceur auquel vous êtes intéressé, vous parlez de Marc Blatta, mais d'abord on va prendre le premier, peut-être le plus connu, Julien Bert ou Julien Berthe. Qui est-il ? À quelles émissions a-t-il participé ?
Julien Bert, il a participé aux Anges, à l'île des Vérités ou aux Marseillais vs le reste du monde. Il est vraiment un grand abonné des télé-réalités.
2 millions d'abonnés sur Instagram, parce qu'après avoir été connu dans la télé-réalité, il est passé sur les réseaux sociaux. Là, il a 2 millions d'abonnés sur Instagram. En avril dernier, il revenait sur la chaîne du youtubeur Bastos sur l'influence qu'il peut avoir sur son public. Je précise que cette vidéo, à elle seule, a fait 1 million de vues. C'est pour se rendre compte de la notoriété de ces personnes et de l'importance de ce qu'ils disent à destination spécifiquement des jeunes.
J'ai un mec sans filtre.
Oui, je sais.
Mais les gens ne connaissent pas vraiment parce que tu essaies toujours de faire un peu attention, de pas... Parce qu'on est des exemples, malgré tout, alors qu'on n'en est pas à la base, mais malgré tout, il y a tellement de jeunes qui nous suivent et qui nous voient comme des exemples. Ouais. Donc il faut faire attention, il faut se mettre des filtres.
Exactement.
Mais si tu me dis d'enlever les filtres,
mais après, je les enlève. Attention, on est des exemples et c'est pas pour rien.
Bah en fait, ouais, et il faut pas reproduire tout ce que je fais.
Non.
Surtout tout ce que je dis.
Reproduisez rien du tout.
Voilà, on n'est pas des exemples, voilà.
Alors Julien Bert, je dis Berthe parce qu'il y a un T à la fin, si vous reconnaissez l'orthographe de son nom. Julien Bert dit dans cette vidéo, il ne faut pas reproduire tout ce que je fais, surtout tout ce que je dis. Et pourtant, Lina Fourneau, vous découvrez qu'il se sert de sa notoriété pour pousser ses abonnés à utiliser sa plateforme d'investissement. Quelle est cette entreprise et que propose-t-il ou que propose-t-elle exactement à ses abonnés ?
Ouais, lui, il a lancé au mois de mars ce qu'il appelait, donc c'était une entreprise qui s'appelle Wolf Investment et en fait, c'est du robot trading. En gros, lui, ce qu'il va faire, c'est du trading automatisé. En gros, il dit à son public, vous perdez du temps en regardant cette vidéo, venez, on va faire de l'argent ensemble et vous n'avez pas grand-chose à faire.
Voilà, au lieu de rien foutre, si j'ose dire,
c'est
à me regarder,
ça.
Allez gagner de l'argent en suivant mes conseils.
Mais ce n'est pas si simple que ça.
Voilà, on le voit au volant d'une grosse voiture, évidemment, très très impressionnante. Entre-temps, il a supprimé les références à son entreprise, ses activités sur son compte. Vous êtes entré en contact avec des personnes qui avaient utilisé sa plateforme de, sa plateforme de trading. Que vous ont dit ces personnes?
Là, par exemple, une des victimes que j'ai interviewée me dit moi, au début, je me suis dit que c'était intéressant, mais bon, j'avais un peu peur. Elle n'était pas non plus complètement naïve. Elle n'a pas dit bon, je vais injecter 10 000 euros comme ça.
Dans
non,
papier,
au début.
Vous l'appelez Mélanie dans le papier.
Mélanie, voilà. Ouais. Mélanie dit bon, je vais injecter 15 euros et on va voir ce que ça va faire. Alors, Mélanie a un petit gain, donc elle se dit ok, on continue. Elle injecte une plus grosse somme. Là, il n'y a plus de nouvelles et silence radio. Et Julien Baer leur a répondu là, on a été hackés. Nous aussi, on a perdu de l'argent. On est les premiers touchés. Et l'enquête est suivie par le FBI. C'est leur excuse.
C'est leur excuse. Est-ce que c'est l'explication? Est-ce que vous croyez à ces arguments?
Je ne sais pas si c'est à moi de juger. C'est une enquête.
Vous avez
une enquête est en cours, bien sûr.
Vous avez essayé de les joindre, évidemment.
Bien sûr que j'ai essayé de les joindre. Alors, c'est ce qu'ils m'ont aussi répondu, la même chose. Ils restent sur cette position. Ils disent oui, nous, on a bien été hackés. Après, est-ce qu'il y a une enquête en cours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de suspicieux, ça c'est sûr.
Sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de victimes de ces arnaques Twitter et Instagram. Est-ce que leur démarche a eu des conséquences sur le business des influenceurs? En l'occurrence, sur celui de Julien Baer. Ou est-ce qu'il a fermé
une activité
et réouvert une autre par ailleurs?
Moi, quand j'ai commencé mon enquête au mois de mai, c'était encore visible. Par exemple, sa plateforme, il était cofondateur de Wolf Investment sur sa biographie, par exemple. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a plein de vidéos qui ont disparu. Il me jure que non. Malheureusement, j'ai oublié de faire des captures d'écran, mais j'aurais dû. Mais j'ai contacté Vostar en réalité, qui depuis 2 ans, elle s'intéresse justement à ces arnaques des candidats. Et elle me dit la même chose. Oui, il y a plein de communications qui ont disparu.
Vostar en réalité, on va en parler. Vous aviez cité tout à l'heure Marc Blatta, on va en parler. Culture Média continue. On est avec Lina Fourneau. Comment ne pas se faire arnaquer sur Internet par des promesses impossibles à tenir? Culture Média revient.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle d'arnaque sur Internet avec Lina Fourneau, journaliste de 20 minutes qui signe cette enquête. Arnaque aux produits financiers sur Instagram. Des candidats de télé-réalité jouent avec l'argent de leurs jeunes abonnés. Ce fut publié il y a quelques jours, mais on continue à beaucoup parler de cette enquête. Il y a des résurgences encore un petit peu partout sur les réseaux sociaux, dans la presse. On trouve notamment un compte Twitter que vous avez relevé intitulé « Collectif d'aide aux victimes de Marc et Nadira ». Alors Marc et Nadira, il s'agit du couple Blatta, sur lequel vous avez également enquêté. Marc Blatta, qui a participé aux émissions La Belle et c'est presque charmant. Presque charmant ou Prince charmant?
Je crois que c'est Prince.
Prince charmant, ouais. Il me semble bien, voilà, j'ai mal noté. Et aux anges de la télé-réalité, que propose Marc Blatta à ses abonnés?
Lui, il explique qu'il propose du copy trading. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, le copy trading, c'est un trader plus expérimenté qui va proposer des opérations financières. Aux apprentis traders, et en gros, le but, c'est copier-coller.
Voilà. C'est légal, c'est illégal?
C'est légal, le copy trading, mais l'AMF dit, attention, c'est des produits très risqués.
L'AMF, c'est le gendarme de la bourse.
L'autorité des marchés financiers.
Voilà.
L'autorité des marchés financiers dit que les pertes sont estimées à de 70 à 80% des opérations.
Et oui, si la personne qu'on suit perd de l'argent, nous, on perd de l'argent avec lui.
Oui, bien sûr.
Vous écrivez que tout se passe par l'application de messagerie Telegram. Pour quelle raison? Pourquoi Telegram?
Alors, parce que Telegram est connu comme étant une messagerie cryptée, donc sûrement plus pratique pour eux. Mais moi, c'est ça ce que j'ai trouvé assez fascinant aussi dans cette enquête, c'est que c'est très simple pour eux, enfin pour nous, le public, d'arriver sur Telegram. C'est juste un clic, quoi.
Alors racontez comment vous avez fait, parce que vous êtes fait passer pour une jeune femme intéressée par l'offre. De quelle manière? Quel profil avez-vous fabriqué? Et que s'est-il passé ensuite? Quels ont été vos échanges avec le couple?
J'avais déjà eu par le collectif un premier témoignage que j'avais trouvé pas du tout rassurant, où Marc Blatta et sa femme étaient assez menaçants. Je voulais voir quand même aussi, moi, avec un nouveau profil, ce qu'ils allaient me proposer. Mmh. J'ai dit que je m'appelais Julie, que j'étais étudiante. Et que, en fait, donc le collectif m'avait expliqué que le dépôt légal minimum était de 500 euros, ce que je trouvais énorme pour des étudiants. Et je me suis quand même dit que c'était la cible privilégiée des influenceurs.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre 500 euros.
500 euros minimum.
Minimum, comment ? Par un virement ? On les met sur quoi ? On les pose
alors,
sur quoi ?
Alors, je ne suis pas allée aussi loin, mais oui, c'est ça. Et alors non, je suis pas allée assez loin. J'ai moi aussi un peu pris peur. Non, j'ai dit que je m'appelais donc Julie, que j'étais étudiante.
Juste un mot parce qu'on est une émission média. Quand vous faites un sujet comme celui-ci, est-ce que vous allez voir le patron de la rédaction en disant « Regarde, pour faire mon enquête, j'ai besoin de 500 euros mis par le journal, comme ça fait partie des frais quand on fait des reportages. » Moi, j'en ai fait des dizaines et des dizaines de reportages. Il y a des frais, c'est normal. Est-ce que vous êtes allé voir 20 minutes pour leur demander les 500 euros pour ça ?
Non. Je pense que de toute façon, on pouvait faire autrement. De toute façon, ce qui nous intéressait était de comprendre comment ils allaient nous répondre. Parce que déjà, juste l'idée du dépôt légal minimum était intéressant. Donc moi, je dis que je suis étudiante, je lui dis, je n'ai pas assez d'argent, parce que voilà. Est-ce que, par exemple, c'est possible de mettre 200 euros ? Et ils me répondent, non, c'est pas possible, tu ne vas pas pouvoir, de toute façon, ça ne te rapportera rien.
C'est quelqu'un qui bosse pour eux ou vous savez que ce sont eux qui répondent en personne ou vous ne savez
pas ? C'est la fameuse Léa, c'est Nadir Ablata. Ça s'entend très bien avec les voix et puis le collectif.
Parce qu'on s'entend.
Oui. Ah oui, pardon, j'ai oublié de le préciser. C'est que Nadé Blata...
Telegram, c'est une messagerie par écrit.
C'est une messagerie mais elle, en fait, moi, je pose la question par écrit. Elle me répond avec des notes vocales. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est qu'il y a une espèce d'une conversation qui va se créer aussi assez rapidement entre nous.
C'est dommage. S'ils avaient su, je vous aurais demandé d'amener les notes vocales si vous les avez encore. Votre enquête a fait beaucoup de bruit depuis une semaine. Elle a même été partagée sur le compte Twitter du rappeur Booba, qui est un habitué des clashs avec Marc Blatta. Marc Blatta a réagi à votre enquête. Évidemment, c'est en story sur Instagram.
Et en plus, dans leur article, ils le disent. Non, en fait, c'est une pratique dangereuse. Pas plus dangereux qu'une chance sur un milliard de trading, c'est simple, c'est une chance sur deux, voilà. Tu viens, tu mets un trade à la hausse ou à la baisse, frérot, tu peux soit gagner, soit perdre. Le loto, c'est une chance sur un milliard. Mais ça, ils disent rien. Ouais. Et puis en vrai, c'est pas comme si la fille qui avait fait ce torchon n'était pas fan de ce rappeur de 45 ans qui clash des gens de télé-réalité. Vous savez très bien que les gens de télé-réalité, ça fait cliquer. Quand on parle d'influenceurs, ça fait cliquer, tout ça, ça vend du rêve. Elle a quand même dit une phrase de ouf, Je peux mourir tranquille. C'était donc ça ton objectif de carrière, de te faire RT, de te faire retweeter par un rappeur déchu qui souffre.
La fille qui a fait ce torchon, c'est vous ?
C'est moi.
Le rappeur déchu qui souffre, c'est Booba ?
C'est ça.
Je souhaite à beaucoup de gens d'être déchus comme Booba et déchu en ce moment.
J'aimerais bien être déchu comme lui.
Vu le succès qu'il a. Vous dites dans votre enquête que Marc Blatta n'a pas souhaité vous répondre. Il y a eu juste des clashs sur Instagram, mais sinon il a toujours refusé de vous parler.
Ouais,
avec un argument ou sans argument ?
Non, il a juste... Pas du tout répondu à mes mails.
Il vous a ignoré ou est-ce qu'il vous a dit non, je ne souhaite pas vous répondre ?
Il a juste ignoré.
Est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Est-ce que parler des influenceurs, ça fait cliquer ?
Ça, j'en ai aucune idée parce que c'était ma première enquête sur les influenceurs. Donc, je ne sais pas. Là, sur ça, je dirais que oui. Mais, et puis, forcément, ça intéresse parce que c'est des personnalités qui sont maintenant connues. Puis, forcément, on connaît leurs dérives. Oui, ça peut faire cliquer, bien sûr, mais c'est pas le but de mon enquête.
Il y avait déjà eu des précédents.
Pas journaliste pour ça.
Il y avait déjà eu des précédents en matière d'arnaque commises par les candidats de la télé-réalité. Quel genre d'arnaque, justement, commises en ligne par les influenceurs ?
On a vu plusieurs scandales ces derniers mois. Par exemple, rappelez-vous, en septembre, il y avait Maëva Guénam qui avait parlé à son public de l'opération pour rajeunir son vagin. Sauf que malheureusement, très dangereux pour un jeune public qui peut être tout à fait influençable. Et puis, on avait vu plusieurs scandales au dropshipping. Si vous voulez que je rappelle ce que c'est le dropshipping, c'est en gros l'achat de produits en gros pas chers sur des plateformes comme AliExpress pour les revendre plus cher en les rebrandant, en faisant une marque. Ouais. Et par exemple, Martin Veil avait fait une enquête là-dessus qui était très intéressante. Et Et oui, je pense que les journalistes commencent à s'emparer de ces dérives-là.
Ils vous vendent 150 euros une montre qu'ils sont allés acheter sur un site chinois.
3 euros en Chine.
Ah oui, j'allais dire 15, vous dites 3, donc c'est encore pire.
Peut-être un peu plus.
Merci beaucoup Léa Fourneau. Votre enquête sur Instagram des candidats de la télé-réalité jouent avec l'argent de leurs jeunes abonnés. Elle est à retrouver sur le site de 20 minutes. Votre prochaine enquête, ce sera quoi? Vous le savez déjà? Vous allez rester sur ce sujet?
J'aimerais bien rester sur ce sujet, mais je pense qu'il faut que je me déconnecte un petit peu aussi de ce sujet. J'en fais d'autres là, donc voilà, on verra.
Merci d'avoir été avec nous, c'était votre première radio, je le rappelle. Dans un instant, la présentatrice emblématique de l'émission C'est mon choix, Evelyne Thomas, c'est pas sa première radio. Elle vient parler de son émission qui cartonne sur Chéri 25, qui revient sur de fascinantes affaires criminelles qui impliquent toutes des femmes meurtrières. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Evelyne Thomas.
Bonjour Philippe Vandel, très en forme ce matin Philippe Vandel.
Présentatrice de télévision, merci beaucoup. On pense évidemment à l'émission C'est mon choix que vous avez animée pendant 5 ans, 99 à 2004 et que personne n'a oublié. Mais évidemment,
et 2015-2018 sur Chéri 25.
J'en parlerai, ne spoilez pas tout l'entretien. Votre carrière évidemment ne se résume pas à ça. Vous êtes désormais présente sur la TNT, sur Chéri 25 avec une émission qui s'appelle Snap. Il y a plusieurs déclinaisons. C'est chaque mardi à 21h. Là, ce mardi, ce soir, la déclinaison, c'est les femmes tueuses. Le concept, en quelques mots, de Snapped.
Alors, Snapped, c'est une émission qui est importée des États-Unis, qui s'occupe particulièrement des femmes meurtrières. C'est vrai que les femmes meurtrières, c'est assez amusant de voir qu'en fait, dans la littérature en général sur les meurtres, sur la criminologie, on ne s'occupe absolument pas des crimes de femmes. C'est comme si les femmes étaient là pour enfanter, pour être jolies, pour être douces, etc. Oui, oui.
Alors, je veux dire, la sensation que j'avais, je suis très étonné de ce que vous dites, je pensais qu'on en parlait moins, parce qu'effectivement, et tant mieux, il y en avait moins.
Non, alors il y en a moins, effectivement, c'est 1 sur 10. Ouais. Et les chiffres aux États-Unis reflètent ce qui se passe en France d'ailleurs, mm-hmm. même si nous on est aux États-Unis. Il y a très peu de gens qui ont étudié la criminologie féminine. Pourtant, elle est là, elle existe, elle est très spécifique. Et ce sont d'ailleurs des scientifiques, des criminologues femmes qui s'en occupent. Jamais les hommes n'ont mis leur nez dans ces crimes de femmes. Oui, c'est très particulier quand on s'y colle.
Vos premières amours journalistiques et vos premières fonctions journalistiques, c'était dans le Nord.
Oui, fait divers.
Exactement. Et vous alliez au procès d'assises.
Oui, oui, oui. J'étais encore étudiante en droit à l'époque, même si c'était du droit politique ouais. et européen. Les assises m'ont toujours fascinée. J'ai eu cette opportunité. Donc, j'étais aux assises de Saint-Omer. Tristement célèbre plus tard avec l'affaire Doutreau. Et c'était des sessions de 15 jours. Et un jour, et ben voilà, le rédacteur en chef m'a dit, écoute, je te catapulte là-bas. Et je suis arrivée aux assises de Saint-Omer. Jeune journaliste qui en veut, évidemment, qui va révolutionner ouais. le monde de la presse. Et là, c'était terrible. Et il y avait des vieux journalistes, des vieux faits diversiers. Moi, je me suis pointée comme une gamine. Et c'est toute la comédia dell'arte, le drame humain qui se déroule sous vos ouais. yeux. C'est terrifiant.
En même temps, les vieux journalistes, d'abord, ils ont été jeunes. Est-ce que vous savez qui oui. a la carte de presse numéro 2
Non, pas du tout.
Eh bien, c'était le plus vieux journaliste judiciaire, chroniqueur judiciaire, qui était Frédéric Potcher. Il avait la carte de presse numéro 2.
J'ai mal révisé mes fiches. Moi, c'est 57-446.
Voilà, moi, c'est pas des fiches, c'était dans ma tête. Alors, on va entendre la bande-annonce du numéro qui passe ce soir.
Bienvenue dans Snapped, les femmes tueuses, votre émission de faits divers sur Chéri 25. Elles sont insoupçonnables jusqu'à ce que la vérité éclate et que leur réelle nature soit dévoilée. Est-ce par passion, par vengeance, qu'un jour elles passent à l'acte et se mettent à tuer ? Tout de suite, je vous propose de découvrir l'histoire de l'une d'entre elles, celle de Cynthia Coates. La vie de Cynthia est compliquée. Elle doit effectivement s'occuper quotidiennement de son mari et de son meilleur ami, qui sont tous les deux handicapés. C'est donc un soulagement quand le jeune Corey s'installe chez Cynthia pour prendre soin des deux hommes. Mais un soir, le corps de Corey est retrouvé dans la maison et l'enquête va dévoiler une relation amoureuse entre Cynthia et le soignant. Alors que s'est-il passé? Que cache Cynthia? Pour le savoir, découvrons tout de suite cette sordide histoire.
Cette sordide histoire, vous dites ça avec un petit peu de gourmandise. Est-ce qu'il faut que les histoires soient sordides pour que ça fonctionne parfaitement? Parce qu'on fait de la télé qui est aussi un récit mais qui est aussi un spectacle.
Un meurtre, par essence, c'est toujours sordide. Mmh. Donc, c'est pas. Voilà, quand on met le nez dans ces histoires, elles sont effectivement dramatiques. Là, c'est un trio. Ouais. Une femme, deux handicapés, elle s'occupe. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, le loup dans la bergerie. Et que s'est-il passé? En tout cas, il y a des morts à la fin. Donc, oui, c'est toujours sordide. Et en plus, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le meurtre des femmes, ça se passe souvent à huis clos. Mmh. Là, on sent bien le huis clos. Donc, vous avez tous les. tous les ingrédients d'un drame, en fait. C'est absolument fascinant.
Alors Snap, c'est une émission, vous l'avez dit, c'est un format américain qui est construit sur la base d'enquêtes avec des interviews. Par exemple, ils interrogent après le meurtre, évidemment, les policiers, une amie de la famille. Cette amie s'appelle Candias.
Quand les enquêteurs m'ont posé la question, je leur ai dit que la relation entre Corey et Cynthia était instable. Il avait peur d'elle.
Candias précise que ça n'a pas toujours été le cas. Quand Corey a emménagé pour s'occuper de Louis, tout s'est très bien passé. Si bien qu'au bout de quelques mois, Cynthia et lui sont devenus amants.
Cynthia et Corey s'étaient rapprochés. Ils ont été amants pendant des années.
Elle se sentait seule. Et elle avait des sentiments pour lui.
Corey aimait l'attention qu'elle lui portait. Elle prenait soin de lui.
Mais d'après Candias, cette relation a fini par devenir une source d'angoisse pour Corey.
Est-ce que vous avez encore le souvenir de ce tournage ? Parce qu'il faut raconter, les émissions, on ne les fait pas au jour le jour, elles passent ce soir. Vous l'avez enregistré quand ?
Oh, il y a un petit bout de temps. Il y a un petit bout de temps, on va dire.
Je vais raconter ceci parce que ça va faire le lien avec ce que vous disiez sur la particularité des meurtres de femmes. On est 2 semaines avant le meurtre et Corey a rompu avec Cynthia. Témoignage.
2 semaines avant d'être tué, Corey a rompu avec Cynthia.
Corey ne le sentait pas. Il estimait que c'était un manque de respect. Il a déménagé.
Il estimait devoir mettre un terme à cette situation et a donc déménagé chez un ami.
Cynthia est devenue folle quand Corey l'a quittée. Elle lui envoyait des SMS, le menaçait, déchirait ses vêtements. Elle était irrationnelle.
D'après Candias, Corey a continué de s'occuper de Louis pendant quelques jours, croyant sincèrement que Cynthia finirait par se calmer. Mais au contraire, sa colère ne fait qu'empirer.
Est-ce que ça n'illustre pas, d'une certaine manière, ce que vous disiez sur les particularités de meurtres signés par des femmes ? Ou est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas, même si, effectivement, je ne voudrais pas qu'on dise voilà, on est genré, les femmes sont des manipulatrices, dès qu'elles ont de la passion, de l'affect, elles deviennent toutes des meurtrières. Non. Mais c'est vrai que c'est une particularité chez les meurtrières, oui. Il y a beaucoup d'affect, et on s'aperçoit aussi qu'elles ont un vécu. Ce sont souvent des femmes issues de catégories socio-professionnelles moindres, qui ont des drames dans leur histoire de jeunesse. Ça fait partie aussi des rares études sur la criminologie féminine.
Et en l'occurrence, justement, Cynthia, je ne veux pas tout déflorer, mais Cynthia a une fille et sa fille a un enfant mort-né. Et après, je ne vais pas dire ce qui se passe dans la tombe, mais c'est juste totalement terrifiant. Evelyne Thomas, vous restez avec nous, on parle de Snap, ça passe ce soir à 21h. On a encore plein de questions, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Evelyne Thomas, Snap, c'est ce soir à 21h. C'est l'histoire d'un meurtre sordide, comme tous les meurtres, vous me l'avez bien dit. Mais quand même temps, vous le précisiez dans la bande-annonce, je me suis dit peut-être qu'il y a des meurtres qui ne sont pas sordides. Pas
non.
Du tout. Ça se décline, Snap. Il y a les couples tueurs, il y a les femmes tueuses, il y a vacances mortelles, il y a Snap, fratrie meurtrière. D'abord, juste un mot, moi je ne parle pas très bien anglais. Snap, ça veut dire quoi ?
Brisé, fracassé. En fait, c'est l'espèce de... Vous savez, il y a quelque chose qui me fascine dans les faits divers, c'est le point de rupture. Quel est le moment où on passe à l'acte ? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi vous ne passez pas à l'acte si vous êtes en bisbille avec votre voisin ou avec votre femme le matin ? Bon, parce que tout d'un coup, au moment où vous êtes énervé, vous avez les ressorts suffisants pour vous dire non, stop.
Oui, mais quand même, il faut déjà être très très énervé. Parce qu'avant d'être énervé et avant de tuer, il faut déjà être énervé au
savez,
point de tuer.
La violence conjugale, c'est déjà ça. Ou la violence tout court. On voit dans une société qui est de plus en plus violente, les incivilités qu'il y a au volant, etc. Tout d'un coup, il y a de plus en plus de gens qui passent à l'acte. Là, c'est le point de rupture. Donc Snap, c'est ça, fracassé.
Snap existe depuis combien de saisons aux États-Unis et mené par vous en France?
C'est plus de 15 ans aux États-Unis. Là, ça va faire quasiment 4 ans, 4-5 ans chez nous. Je ne vois pas les années défiler parce que je pense toujours à après. Moi, je ne suis jamais dans le passé. Donc, ça marche très bien aux États-Unis. Et puis, ça marche bien sur notre chaîne puisqu'on est bien au-dessus des audiences de la chaîne. Ça me performe sur les ménagères. Donc, ça va, je suis contente.
L'émission, ça de retour à la rentrée ?
Oui, bien sûr.
Bah pourquoi, bien sûr. Il y a tellement de gens, quand je pose cette question au mois de juin, il y a tellement de gens qui disent « je ne sais pas ». Il y a même beaucoup de gens qui disent « je pense que je vais lever le pied » alors qu'ils ont appris 15 jours plus tôt que la chaîne n'avait plus besoin d'eux pour la rentrée.
Non, j'ai la chance d'avoir la confiance de mes patrons, Jean-Paul Bodecroux, Hervé Pavard et Guénaël Trolli, qui m'ont renouvelé justement un nouveau mandat d'un an. Là, c'est pas un quinquennat, mais ça va bientôt faire un quinquennat puisque ça fait 6 ans. Ouais, ça va faire un septennat bientôt. Ça fait 6 ans que je travaille sur la chaîne.
Vous n'aimeriez pas tourner des histoires françaises ?
Pas vraiment. Il y a déjà Crime qui a pris pas mal de place sur l'antenne. Et puis là, je trouve que ce format est intéressant. Vous savez, aux États-Unis, ce qu'ils ont de plus par rapport à nous, c'est qu'ils peuvent filmer les audiences. On l'a vu avec le procès Depp Heard. Ils peuvent filmer les audiences. Ils ont beaucoup plus d'accès à l'information, avec les excès que ça peut donner. Mais ils ont toute une matière visuelle est exploitable, ce qu'on n'a pas en France. Donc c'est vraiment une richesse incroyable.
Et montrer les photographies des impétrants, ce qui est interdit en France. Il faut flouter tout le monde.
Oui, absolument.
Il y a quelques années, Evelyne Thomas, vous aviez juré de plus jamais refaire de télévision. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Oh, mais je dis ça tous les ans.
C'est vrai ?
Non.
C'était dans Pure Média le 2 novembre 2015.
Oh mon Dieu. C'est vrai qu'à un moment, moi je suis quelqu'un qui a besoin de me projeter en avant. Je ne regarde jamais derrière, c'est peut-être ce qui me sauve d'ailleurs. Donc il y a des moments où je suis un peu à sec, je suis à sec d'idées, j'ai besoin d'être dans ma bulle, etc. Puis il y a des moments aussi où les diffuseurs ou les producteurs n'ont pas spécialement envie de moi. Vous devez connaître ça, Philippe, puisque
toujours.
Vous avez une grande carrière.
Tout le monde est
et quand
décent.
On a une longévité, effectivement, c'est souvent les montagnes russes. Donc il y a un moment, quand on n'est plus en adéquation, quand les planètes ne sont plus alignées, vous vous dites, oh, j'en ai marre, je vais faire autre chose. Voilà. Et puis finalement, la télé où le journalisme vous rattrape toujours. Et c'est ça qui fait, quand on a envie de dire des choses, montrer des choses, ça c'est passionnant.
Alors, vous dites, vous ne regardez pas le passé, mais quand même, il y avait un prime time samedi 11 juin sur TF1. C'était un samedi soir. 30 ans d'émission culte, TF1 revisite les années 90-2000. Et en bonne place, parmi ces émissions, il y avait NPA, il y avait 1000 choses. Il y avait C'est mon choix, présenté par vous. Je ne peux pas ne pas vous en parler. En quoi cette émission a changé votre vie ?
Elle a changé ma vie parce que d'abord au niveau du format, moi qui étais une journaliste très sérieuse, j'avais fait le JT, les soirées électorales, politiques, économiques, etc. Tout d'un coup, je m'étais attaquée à un format plus divertissant avec un concept qui faisait marcher le public, les invités et moi. C'était un trio. J'ai été formée, entre guillemets, par les Américains à l'époque d'Evelyne sur TF1 et je trouvais ça formidable. C'est vrai que j'en avais un peu ma claque du journalisme stricto sensu, lire son prompteur le soir pour raconter les histoires, avec en plus, faut pas se mentir aussi, beaucoup de politiques qui passent des coups de fil pour dire « Ah non, faut pas traiter ça ». Je me sentais plus libre, donc je me suis dit « Autant aller faire du divertissement, ça va m'amuser et être en phase avec la société ». Le format de C'est mon choix, qui a été repris après par Delarue et Francisé, est un format totalement inédit qu'on a mis à l'antenne et qui en plus a réussi, et ça j'en suis pas peu fière quand même, 10 ans plus tard, à cartonner à nouveau sur Chérie 25 en 2015, et ça c'était pas gagné. Donc quand on est en phase avec la société, voilà, moi ça me plaît.
Je voudrais qu'on entende un son qui va parler à beaucoup de gens. Ça, c'était le son du générique. Et je raconte pour les plus jeunes, ce fut un succès énorme, totalement imprévisible. Vous êtes d'abord placé sur une petite case qui a monté. Et puis, il y a ce moment incroyable quand les députés à l'Assemblée nationale ont solennellement demandé...
Vous n'allez pas me ressortir ça.
Évidemment. Vous vous souvenez de ce souvenir quand même ? Vous voulez interdire l'émission parce que c'était racoleur.
Mais je me souviens même qu'un député, une fois, parce qu'il y avait une grande grève à France 3, avait sorti ma feuille de paye parce qu'à l'époque j'étais journaliste.
J'avais oublié ça.
Oui, vous ne s'en souvenez pas ? Et c'était très rigolo parce que j'étais la plus mal payée de France 3 à l'époque où je présentais le JT à Lille. Donc ça, je me souviens bien. Mais ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est que là, vous avez dit pour les plus jeunes. Je vais vous scotcher, vous qui bossez bien vos invités. On a repris, donc C'est mon choix, en 2015 sur Chérie 25. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, parce que moi j'aime bien travailler aussi pour les jeunes.
Bien sûr.
Et là, on a eu un nouveau succès et il se trouve que quand on regarde les courbes d'audience de 2015, on a les jeunes, on a la ménagère. Donc il y a plein de minots de 20 ans qui ont l'âge de ma fille, qui connaissent C'est mon choix. Donc là, vous avez échoué. Ouais.
Et avec les mêmes thèmes. Je vais vous dire ce qui m'a frappé. Parce que les thèmes de l'époque, on vous reprochait d'être racoleur. Mais quand on regarde les
Maintenant,
thèmes de l'époque...
Culte.
Mais moi, j'ai même repris les thèmes dits racoleurs de l'époque, et maintenant, ça passerait tout de suite. Je déteste les blondes, je suis une emmerdeuse avec mon mari, j'aime les grosses, j'ai changé de sexe, mais ça, j'ai vu des milliers d'émissions là-dessus.
Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Quand on a commencé à faire beaucoup d'audience, on nous a accusé d'être racoleurs, alors que Mireille Dumas, à l'époque, faisait bien pire que nous. On a, déjà, à l'époque, on n'avait jamais fait les transsexuels, par exemple. C'était interdit par la chaîne, puisqu'on avait le CSA derrière nous, et qu'en plus, à 13h50, on avait les jeunes. Mais ça, c'est, vous voyez, c'est un faux procès.
Evelyne Thomas, vous êtes une sorte d'encyclopédie de la télévision. Vous avez commencé, et j'ai vu cette recension, vous avez commencé votre carrière à la télé sur France 3 en 86. Vous êtes passé ensuite par TF1, par RTL9, par Direct8, par Teva, par Chérie 25, Énergie 12, Non Stop People. Comment jugez-vous l'évolution de la télé depuis presque 30 ans?
Mon Dieu, mon brave monsieur, les choses ont changé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on s'approprie la télévision, on s'approprie les gens qui font de la télévision. La télévision, a été désacralisée et est tombée d'un cran. Donc ça, c'est ce que je constate. Maintenant, je ne suis ni amère, je ne regrette rien du tout. Encore une fois, j'avance.
Merci beaucoup, Evelyne Thomas. Donc, je rappelle, Snap, c'est ce soir à 21h sur
Chérie
25.
Avec Cynthia Coast.
Merci d'avoir été avec nous dans
Culture
Média. Merci
Philippe, c'est toujours un plaisir.
Pareil. Culture Média, ça continue après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet au moment où un journaliste polonais accuse TF1 d'être responsable de la mort d'un soldat ukrainien. Il a re-regardé le reportage mis en cause. Notre invitée, c'est l'actrice Marina Foïs. On parle de son film En roue libre, road movie à huis clos, mais en mouvement, vous allez comprendre. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire va nous parler de musique, Special Pride, et Héloïse Goy va nous présenter une série géniale, mais totalement impossible à pitcher, donc je ne le fais pas. Marc-Antoine Lebray, en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.